qui fait plaisir au Seigneur de voir des jeunes, des enfants qui viennent dans les cultes, et on ne peut pas s'en plaindre. Simplement, il faut qu'on devienne plus grand dans toutes choses, et on est en marche. Amen. Voilà. Donc ceux qui ne sont pas agacés, je vous demande pardon, mais voilà, il y a des choses qui vont bouger par la grâce de Dieu. Amen. On va prier pour que le Seigneur nous parle ce matin par sa parole. Père, nous te louons et te bénissons parce que non seulement tu as donné Jésus ton Fils il y a 2000 ans à la croix, mais Seigneur, tu nous as laissé une parole qui est éternelle, parce que tu as dit « la terre et le ciel passeront, mais ma parole ne passera point ». Or Seigneur, cette parole, nous voulons encore ce matin qu'elle nous édifie, qu'elle nous construise sur le roc solide, Seigneur, qui ne change pas. Nous te louons dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Jésus, quand il a institué l'Église, il a dit « Tu es Pierre, Pétros, et sur cette pierre, Pétra, je bâtirai mon Église. » La Pétra, c'est le roc. Et vous savez que dans la parole de Dieu, beaucoup dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau, on parle de Dieu qui est un rocher. Amen, le rocher des siècles, le rocher des âges. Je ne sais pas si vous avez remarqué que la Terre, c'est des plaques tectoniques. C'est des plaques qui ont bougé. Vous voyez d'ailleurs l'Afrique qui prend la forme de l'Amérique, tout ça, qui ont bougé. Donc il n'y a pas beaucoup de choses qui sont stables. Nous, on a l'impression qu'on est stable, mais en fait, on n'est pas stable. On tourne à la vitesse de trois fois la vitesse du son. C'est rapide. Enfin, deux fois. C'est-à-dire, si un avion vole à 1000 km à l'heure, nous, on vole à 2000 km à l'heure, Mach 2. Moi, j'étais dans le Concorde, j'ai eu cette chance quand j'étais en activité, on a payé le Concorde. Et voilà, à Mach 2, j'avais vu Mach 2, c'est cette vitesse-là que nous tournons sans arrêt. Et on croit qu'on est stable. Oh, ouais. Vous voyez ? Or, il n'y a qu'un seul qui est stable dans l'univers, c'est Dieu. Qu'un seul qui est stable. Amen. Et nous pouvons compter sur ce Dieu, sur ce Pétra, sur ce rocher. Donc Pierre, c'est un caillou. Nous sommes des pierres vivantes, mais Jésus est le rocher. Jésus est celui qui est stable. Amen. Et nous sommes construits sur cette stabilité. Et nous devons nous construire sur cette stabilité. Sinon, nous tournons, nous prenons le tournis, nous sommes dans la confusion, vous ne savez pas où nous sommes. Amen. Nous avons besoin d'être construits sur... L'Église est construite sur le rocher qui est stable. Amen. Alors ce matin, mon message s'appelle « Voir et pourvoir ».« Voir et pourvoir ». Alors pour introduire le message, c'est un peu un message qui prépare Pâques. Vous savez que Pâques vient très vite, dans 15 jours. Et Pâques veut dire quoi? Il y a un S ou pas un S à Pâques? Bizarre ça. Pardon? Il y a un S, ouais, mais c'est pas bon. Ça, c'est les Pâques, mais la Pâques. Tout simplement parce que les Pâques, Pâques avec un S, ça renvoie. Bon, ça, j'ai appris ça à l'Expo Bible, vous savez, on apprend beaucoup de choses. À l'Expo Bible, j'ai appris des choses comme vous. C'est l'ensemble des cérémonies religieuses chrétiennes, les Pâques. Orthodoxes, catholiques, puis même dans les églises catholiques, il y a différentes sortes de Pâques, de passages, etc. Mais la Pâque, il n'y en a qu'une. C'est le passage. Pâque, ça veut dire le passage. Il n'y a qu'un passage de la mort à la vie, c'est Jésus. Amen. Donc, je préfère Pâque sans S, la Pâque. Donc, Pâque approche. Pâque, c'est le passage. Le passage de quoi au départ ? Dans l'Ancien Testament, qui préfigurait le passage de la mort à la vie de Jésus, de la mort à la résurrection, c'est d'abord là. Hello? Vous êtes avec moi? Quelle est la Pâque, la première Pâque? Sortie d'Égypte, passage de la mer Rouge. Quel autre passage a eu lieu plus tard? Le passage de la Pâque de Jourdain. Merci Michel, tu auras un bon point. Jourdain. Pour aller à Jéricho, entrer dans la terre promise, il fallait refaire un passage. Passer de l'autre bord. Et le Jourdain était... Et comment est-ce qu'ils l'ont passé? de la même manière qu'ils ont passé la mer Rouge. Alors, vous croyez au hasard, vous ? Il y en a qui croient au hasard, levez la main. Non ? Le hasard, les nécessités, bon, c'est quelqu'un qui a écrit ça. Mais moi, je ne crois pas au hasard. Moi, je pense que Dieu dirige toutes choses. Amen. Et si le passage du Jourdain était pareil que le passage de la mer Rouge, c'est qu'il y avait une raison. Ils ont passé à pied sec, avec le coffre de l'Alliance, etc. Il y avait une signification derrière. Et ensuite, après, eh bien, nous avons le passage de la mort à la vie de Jésus, qui est mort et ressuscité, qui est la vraie Pâque, la vraie signification de Pâque, celle qui a été prophétisée depuis l'Ancien Testament jusqu'à Jésus. Donc, nous allons célébrer cette Pâque qui a été annoncée et qui est accomplie en Jésus-Christ à la croix. Alors, pour introduire ce message, voir et pour voir, je dirais que nous nous appuyons sur un type de Christ. Alors, c'est quoi un type de Christ ? Ça veut dire que Christ, il n'y en a qu'un seul, hein, un ou un, c'est Jésus. Jésus, le Christ. Jésus est oint. Jésus qui est né de Marie, il était oint, il est devenu le Christ, loin de Dieu. Nous aussi, nous sommes des Christ, mais des petits Christ. Hein. Nous sommes oint par Dieu. Il y en a qui ont reçu l'onction de l'Esprit. Amen. Oui. Vous êtes que quelques-uns ici. Vous avez l'onction de l'Esprit. Nous l'avons reçue lorsque nous avons cru. Amen. L'onction. Et il y a des types de Christ qui ont annoncé, depuis l'Ancien Testament, Christ. Mais Christ, il est tout. On l'a chanté, on l'a dit ce matin, on l'a proclamé. Que tout est en lui, que tout est pour lui, que tout est par lui. Amen. Donc Christ est tout. Mais il y a des personnes qui ont été suscitées dans l'Ancien Testament pour manifester une caractéristique de Christ, puisque à un moment donné, Christ allait être tout pleinement. Alors, je vous donne un exemple. Adam, par exemple, est un type de Christ comme chef d'une création humaine. Alors, la preuve, c'est que l'apôtre Paul va dire que Christ est un nouvel Adam, le deuxième Adam, hein, parce qu'il a repris l'ancien Adam, donc chef de file de l'humanité, pour créer une nouvelle humanité, celle qui est rachetée, celle qui est parfaite, celle qui est... vous saviez que vous aviez deux identités ? Moi, j'ai ma carte, une carte spéciale d'identité, là, elle est là. Hein, je la montre souvent. Des fois, je tendance à la donner à la police, alors vite, je la remets, je donne l'autre carte d'identité. Ou j'ai la carte d'identité céleste. Moi, j'ai une identité céleste. Mon royaume, c'est un royaume éternel. L'autre, elle va disparaître, hein, mais celle-là, elle va rester pour l'éternité. Amen. Et je suis très fier d'avoir cette carte d'identité du ciel. Donc Adam est le premier chef de file, première création. Jésus est le deuxième Adam, deuxième file de la création qui ne va pas se corrompre. Le corps de Jésus ne s'est pas corrompu. Il a été transformé, il a été transfiguré. Et maintenant, il a un nouveau corps, c'est celui que nous aurons lors de la résurrection. Allô ? Vous avez cette foi aussi ? Amen. Donc Adam est un type de Christ. Moïse est un type de Christ. C'est un type du ministère prophétique. Vous avez remarqué que Moïse est un prophète ? Un prophète. C'est lui qui a donné la loi. C'est lui qui a créé le peuple. Le peuple, il n'existait pas avant. C'était une tribu, c'était une famille. Mais le peuple a été constitué avec Moïse. Melchisédek. Vous connaissez Melchisédek ? C'est qui ? On ne sait pas. Mais Melchisédek, il était un type de Christ dans sa fonction de sacerdoce, sacerdotale, dans la fonction de sacrificateur. Hein. David, c'était quoi comme type de Christ ? Dans quelle fonction il était type de Christ ? Fonction royale. C'est bien, on fait des programmes en théologie. Hein? Mais voyez, c'est pour montrer qu'il y a un tas de types. Alors je vais vous en citer d'autres. Jérémie, homme de douleur. Oui, il était prophète, c'est vrai. Mais dans sa fonction d'homme de douleur. Joseph, dans sa fonction de souffrance. Isaac, dans sa fonction de sacrifice. Jonas, dans sa fonction de résurrection. rappelez le poisson. Josué, dans sa fonction de victoire. Noé, dans sa préfiguration du sauveur. Amen. Élie, dans sa fonction de précurseur. L'esprit d'Élie viendra avant Jésus avec Jean-Baptiste. Élisée, dans sa fonction de miracle. Rappelez les miracles d'Élisée. Et Abraham. Oui, c'est le père de la foi. Dans quelle fonction? Fonction d'ancêtre. Ancêtre et préfiguration de la justice. Et c'est de ça que je vais vous parler ce matin. Ancêtre parce qu'il est question du père et du fils. Vous voyez ce que je veux dire? La relation du père et du fils, elle est préfigurée dans le personnage d'Abraham. Alors, il y a tout un tas d'autres types. Mais c'est pour montrer que, voyez-vous, quand les inconvertis parlent de Jésus comme ça, non, Jésus était annoncé par tous ces types de personnes. Et Jésus, il a tout revêtu, tous ses ministères, dans sa propre personne, dans son ministère. Alors, voir. Nous allons lire dans Genèse, donc, le passage bien connu d'Abraham avec son fils. Donc, je vous encourage à lire Genèse 20, 21, 22, 23 chez vous, si vous voulez avoir une globale vue sur Abraham. Je vais lire chapitre 22, verset 1er à verset 6. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit : Abraham ! Il répondit : Me voici. Dieu dit : Prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en dans le pays de Morija et offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui ses deux jeunes serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour se rendre à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Alors il dit à ses jeunes serviteurs : Vous restez ici avec l'âne, le jeune homme et moi nous irons là-haut pour adorer, puis nous reviendrons auprès de vous. Voilà ce magnifique passage qui anticipe ensuite le sacrifice d'Isaac. Imaginez Abraham envoyé par Dieu vers une terre lointaine que celui-ci devait lui indiquer le moment venu, une montagne que Dieu lui allait indiquer. Il n'y a pas dit dans quelle montagne, il a dit « Je t'indiquerai la montagne ». Alors peut-être les femmes sont plus sensibles à comprendre ça que les hommes. Parce que parfois, on peut demander à une femme « Ah ben tiens, tu vas faire les courses, qu'est-ce que tu vas acheter ?» Elle dit « Ah ben, je sais pas, quand je verrai, hein, je prendrai ce que je verrai, voilà. Hein » Ah, ça dépasse les hommes, parce que les hommes, hop, ils ont besoin d'une liste. Et moi aussi, hein, quand je vais dans les magasins, j'ai une liste, je demande à Michel la liste, et voilà, je suis la liste, et quand la liste est finie, voilà, je peux aller à la caisse. Vous voyez, une capacité d'une femme de sentir les choses. Donc, je pense que ce passage d'Abraham, pour les femmes, c'est plus facile à comprendre. Le Seigneur lui dit, tu t'en vas, et puis tu verras. Tu verras. Quand tu verras la montagne, bah, tu iras. Waouh! Déjà, en tant qu'homme, moi je serais bloqué. Je dirais, attends Seigneur, dis-moi où, j'ai besoin de savoir, quel chemin je prends, si je me trompe. Oui, attends, ça va pas ça. Hein. Et puis, voilà, culpabilité, si je me trompe, voilà, je déplais à Dieu. Non, non. La femme, ok, on verra, quand je verrai. Vous voyez? Abraham a un peu ce comportement-là. Mais la Bible dit que. Dans 1 Jean chapitre 2 verset 20 que nous avons une onction venue de Dieu qui nous permet de comprendre des choses. Donc ce que nous n'avons pas naturellement, le Saint-Esprit nous permet au moment nécessaire de voir ce que le Seigneur va nous montrer. Hello ? Et vous, c'est déjà une attitude de foi. Abraham, bien sûr, c'était le père de la foi. Mais il n'avait pas besoin de tout le déroulé opératoire de l'endroit où il devait prendre, il est parti, faisant confiance à Dieu que le moment venu, il verrait la montagne que Dieu lui indiquerait. Que se passe-t-il ensuite ? Eh bien, le troisième jour, il a dû attendre 3 jours de marche à pied, sans arrêter, et il vit l'endroit, nous est-il dit, il vit l'endroit de loin. Comment est-ce qu'il le voit ? Comment est-ce qu'il le voit ? Eh bien, il avait une boussole intérieure. Vous savez ce que c'est une boussole ? Quand j'étais en Angleterre avec Michel il y a bien des années, j'avais tellement marre de leurs ronds-points. Maintenant, on a aussi chez nous des ronds-points partout. Parce que quand je posais des questions à des gens pour aller à un certain endroit, les Anglais me disaient, bon, prenez le premier rond-point, le deuxième à droite. Le prochain rond droit, le deuxième à gauche. Le troisième rond-point, le troisième... Ils ont déroulé un truc comme ça. Alors moi, déjà, qui n'ai pas de mémoire, qui ne peux pas faire des notes, j'étais foutu d'avance. Ce premier rond-point, déjà, je me perdais. Je ne savais plus si c'était le premier, le deuxième, le troisième. Il fallait sortir. Pour eux, c'était clair comme de l'eau de roche. Pour moi, c'était fini. Alors j'en ai eu marre. J'ai dit, oh, j'achète une boussole. Et je roulais à la boussole. Je ne m'indiquais plus. Quand j'allais dans le sud, parce que l'Angleterre, c'est quand même un couloir. Donc quand j'allais au sud, moi, je suivais la boussole. C'est tout. Et dans les villes, je traversais la boussole. Je ne me suis jamais trompé. Voilà. OK. Donc vous voyez, la boussole, ça sert, hein ? Ça sert. Et nous avons une boussole intérieure, vous le saviez ? Tous, nous avons reçu une boussole intérieure par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, la boussole. Nous ne maîtrisons pas la boussole. Hein ? Nous n'avons pas le mode d'emploi. Mais le Saint-Esprit, c'est notre boussole. Amen ? Ce qui fait que, vous savez, les hommes, on peut rejoindre les femmes. Hein ? Il n'y a pas qu'elles qui ont des boussoles. Nous aussi, il y en a. Allô ? On a tous des boussoles, une boussole intérieure. Et c'est la boussole intérieure d'Abraham qui lui a dit, ça y est, c'est la bonne montagne, tu peux la prendre. Alors, le Seigneur fait bien les choses. David, il avait une boussole intérieure. Vous le saviez ça? Pourquoi? Parce que David était le seul à voir Goliath à terre. Pourtant, il y avait des hommes en armes. Lui, il n'avait pas fait l'école militaire. Ses frangins l'ont fait. Ils étaient à l'école militaire. Et vous savez, quelle école ? Quelle école, hein ? C'est pas comme aujourd'hui. Hein ? C'est pas derrière un ordinateur où vous lancez des fusées. C'est vous êtes sur le front. Hein ? Vous battez physiquement à l'époque. Hein ? C'était une école qui était physique, qui était vraiment du corps à corps. Et Saül avait une armure tellement forte que David ne pouvait même pas la porter, il s'écroulait avec. Il y avait des hommes de guerre et ils n'ont pas vu que ce géant allait être par terre. Un seul l'a vu, c'est David. Il avait une boussole intérieure qui lui disait, ce géant, il sera par terre. Comment j'en sais rien, mais il sera par terre. C'est ça la foi. C'est ça la vision, voir comme Dieu voit. Parce que Dieu, vous voyez déjà par terre, parce que pour Dieu, c'est quoi Goliath ? C'est rien du tout. C'est même pas un moucheron, c'est même pas une fourmi, c'est rien. Donc si vous avez les yeux de la foi, eh bien vous êtes comme David. Vous voyez, et votre boussole intérieure va dire au bon moment, je saurai quoi faire. Alors, bien sûr, tout le monde s'est affairé autour de David. Mettez l'armure, lui donnez des conseils, une fois qu'il voyait qu'il ne pouvait plus l'arrêter, que c'était le seul parmi tout Israël qui allait, après ces jours et ces semaines d'attente incroyables et devant cette humiliation de Goliath pour toute l'armée d'Israël et tout Israël, ils ont cédé. Et David, tout ce qu'on lui proposait, il disait non, ma boussole, elle va pas là. Et à un moment donné, il a eu marre, il a dit laissez-moi tranquille. Et il est allé au bord du torrent, il a pris quelques cailloux, c'était sa boussole. Il savait que c'était avec ça qu'il allait détruire Goliath. Amen. Tenez compte de la boussole intérieure que Dieu a mis dans votre cœur. Et ne comptez pas sur vos forces, sur vos moyens. Et le géant qui est devant vous, il va tomber. Amen. Abraham a vu, il a vu au moment où il fallait le voir, la montagne où il devait sacrifier Isaac. Amen. Voir. Maintenant, pour voir. Pour voir. Dans Genèse, au verset 14, il dit qu'Abraham donna à cet endroit, donc l'endroit de la montagne que Dieu lui a montré, qui n'avait pas de nom auparavant, il donna le nom de Adonai Jireh. Adonai, c'est quoi ? Seigneur. Seigneur. Adonai Jireh. Jireh, ça veut dire quoi ? Pour voir. La montagne, donc il a appelé la montagne où Dieu a pourvu. Vous voyez déjà la foi. La foi, c'est pas la montagne du sacrifice. Alors ? Vous pigez ? Il ne l'a pas appelé la montagne du sacrifice. Pourtant, c'est là qu'il a sacrifié son fils. Toute la souffrance, toute la sueur morale de perdre son fils. Imaginez, Dieu vous demande ça. Et vous le faites. Mais la souffrance pendant tout ce parcours. Et ça, ça s'appelle l'école de Dieu. Il y en a qui veulent aller à l'école de Dieu ? Bonjour les copains, hein ? On va souffrir ? Eh oui ! L'école de Dieu, c'est une véritable école. Alors ? Eh oui ! Ce n'est pas des devoirs à faire, mais on l'apprend par la souffrance. Jésus a pris l'obéissance par quoi ? Choses qu'il a souffertes. Vous voulez être plus grand que Jésus ? Ou tout au moins comme Jésus ? Ben, Jésus, il a souffert. Il n'a pas souffert que pour la croix, attention, parce qu'on fait des raccourcis très vite en tant que chrétien. Mais il a souffert pour obéir. L'obéissance nécessite la souffrance. Alors bien sûr, aujourd'hui, c'est un gros mot, l'obéissance. À mon époque, c'était exagéré. C'est vrai que moi, les coups de bâton, j'ai connu ça. Enfin, voilà. Mon grand-père était allemand, ça rigolait pas, hein. Mon père s'est un peu adouci, mais voilà, c'était l'obéissance. Voilà. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Maintenant, c'est fini. Voilà, on interdit même de donner une fessée à un gamin, tout ça. Voilà. Bon, on ne sait plus l'équilibre. Mais la Bible dit que Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. La souffrance fait partie du disciple. De l'école de Dieu. Amen. Dans 1 Pierre, au chapitre 1er, verset 7, c'est un verset très important. Moi, j'aime bien Pierre. Hein. Vous voyez, toute la vision de l'Église est basée sur Pierre. 2 Pierre 1:5, et là, c'est 1 Pierre 1:7. Et Pierre, c'était pas un grand théologien comme Paul, hein, enfin, un grand érudit. Hein. C'était un homme de terrain, c'était un pêcheur, il avait les mains qui étaient abîmées par la mer, et c'était un homme de terrain. Mais quelle profondeur dans ses épîtres, quelle richesse, quelle vérité qu'il dit dans sa parole, dans cette parole. Dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 7, moi quand je me suis converti, l'épître de Pierre m'a bouleversé, hein, c'était vraiment mon épître. 1 Pierre 1, verset 7, il dit « Afin » que votre foi éprouvée, vous voyez, c'est pas une foi, simplement une foi, c'est une foi éprouvée. Que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu. Donc ça veut dire que la foi doit être éprouvée plus que par le feu. C'est quoi? Plus que par le feu, vous vous rendez compte? Déjà le feu, c'est dur, hein, il y en a qui sont brûlés déjà, rentrer dans le feu. Ben, il faut passer par le feu pour être un disciple. Mais la foi, c'est encore plus. Parce qu'il compare la foi à de l'or périssable, cependant éprouvé par le feu. Se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Voyez-vous, la foi, c'est quelque chose qui doit grandir. C'est pas comme ça un don qu'on reçoit et hop, on le met dans un écrin, on le met sur sa petite tablette de chambre et puis voilà, on dort à côté et puis on est tranquille. Non. La foi, c'est quelque chose de dynamique. C'est la dynamique du royaume, la foi. Amen. C'est quelque chose qu'il faut exercer en permanence pour remporter des victoires, pour faire des bons en avant, pour grandir. Amen. C'est un peu comme si vous arrêtiez de manger. Personne n'arrête de manger, sauf ceux qui sont un peu malades. Mais on mange. Mais la foi, c'est ce qui nous fait grandir. Et la foi, pour grandir, elle doit être éprouvée. Éprouvée. Et elle, quand elle est éprouvée, comme celle d'Abraham, c'est le père de la foi. Il a été éprouvé, bien sûr, certainement au-delà de ce que nous, on aurait pu supporter. Mais lui, c'est un type de Jésus dans ce domaine-là. Et la foi éprouvée est bien plus précieuse que l'or. Pourquoi ? Parce qu'elle dure l'éternité. Vous savez, l'or va disparaître, mais la foi, elle va rester. Parce que la foi va se transformer en vision réelle. Nous nous voyons comme dans un miroir, et quand nous serons avec le Seigneur, nous verrons clairement. Amen. Aujourd'hui, la foi, c'est déjà la vue de s'emparer des choses qui existent dans la réalité spirituelle. Mais après, ça sera la réalité spirituelle. Voyez, on passe d'un état où on voit des choses, on perçoit des choses, on a une boussole vers laquelle, d'un seul coup, on voit, comme Abraham, mais après, on verra la réalité qui existe aujourd'hui déjà et qu'on peut voir, mais qui existe. Cette réalité, elle existe. Allô ? C'est pas une invention, c'est pas une illumination, c'est une réalité. La foi, c'est de saisir des réalités, mais après, comme le dit ici l'apôtre Pierre, eh bien, cette foi qui est éprouvée, donc acceptons que notre foi soit éprouvée. Il y en a qui veulent que leur foi soit éprouvée. Amen. Amen. Mais il faut du courage. Il faut du courage. L'apôtre Pierre dira, justement, c'est le sens de la vision que j'ai partagée aux hommes hier, dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 5, « Faites tous vos efforts. » Alors, quand on me dit que la vie chrétienne, c'est pas faire des efforts, c'est qu'ils n'ont rien compris. Ah, rien compris. Hein. L'évangile de la grâce. Hein. Voilà. Ouais. Prospérité, grâce. Non, faites tous vos efforts. Hein. Ou alors j'arrache cette page-là. J'arrache la page. C'est marqué faites tous vos efforts. Alors c'est quoi ça? C'est quoi cet évangile? Hein. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. La vertu, c'est la force de l'âme, pas de l'esprit. La foi, c'est la force de l'esprit. La vertu, c'est la force de l'âme. Les Romains, c'était des gens de vertu. Mais nous, on est plus que des Romains. Parce que la vertu chrétienne, c'est de pardonner. C'est plus dur que de lancer un poignard à quelqu'un. Ou comme les soldats de se battre. Parce que c'est s'humilier. C'est beaucoup plus dur de s'humilier que de se battre. Alors, comprenez ce que je veux dire ? L'humilité, le pardon, la repentance, c'est très très dur, même pour des chrétiens. Je le vois tous les jours dans mon ministère de pasteur. C'est beaucoup plus dur de s'humilier que l'inverse. Donc nous sommes formés à l'école de Dieu. Le récit commence, le récit d'Abraham, de l'école de Dieu, commence par ces choses. Vous avez dans votre Bible, après ces événements, mais peut-être dans vos Bibles, c'est marqué, il arriva après ces choses. Il y en a qui ont ça, suivant les versions. Après ces événements, après ces choses. C'est quoi ces choses? C'est quoi ces événements? C'est quoi? Je relis. Après ces événements, et vous avez peut-être après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. C'est quoi ça? Vous avez une idée? Ce que c'est que ces événements, après ces événements, c'est quels événements? Je lis la Bible là. Vous comprenez ce que c'est que ces événements-là? Allô? Je parle à des gens qui sont vivants. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quoi ces événements? Promesse. Non, non, les événements, c'est les événements. Les choses, c'est les choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Là, il se trouve que Dieu met la foi à l'épreuve, mais avant, ça veut dire qu'il n'y avait pas la foi, Abraham. En fait, Abraham, si vous lisez avant, parce qu'il suffit de lire avant, hein, la réponse elle est là. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, lisez les chapitres 19, 20 et 21 et vous aurez la réponse de après ces événements. C'est en fait ce qui s'est passé avant. Avant. Non, non, c'est pas l'alliance. C'est tout simplement les bêtises qu'Abraham a fait. Vous croyez qu'Abraham a fait des bêtises ? Eh oui. C'est pas parce que c'est un homme de foi qu'il a pas fait de bêtises. Moi je trouve que la Bible, contrairement à d'autres livres religieux, il présente la bêtise des hommes, des femmes de Dieu qui croient comme nous. Donc on se sent pas culpabilisé, on a fait des bêtises, parce que Abraham aussi a fait des bêtises. Qu'est-ce qu'il a fait comme bêtise? La première bêtise. Et il l'a fait deux fois la bêtise. Ouais. Est-ce que c'était vrai? Si, c'était vrai. Non, mais attendez. Hello? Vous connaissez votre Bible? Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Ah, je préfère ça. Vous voyez, c'est un demi-mensonge. Ça vous est jamais arrivé de faire un demi-mensonge? Les catholiques, ils punissent même ça en disant que c'est un péché, je ne sais pas. Véniel, voilà. C'est-à-dire que vous n'allez pas en enfer, vous allez au purgatoire. Voilà. Donc, c'est demi, voilà. Pas très grave, vous avez que 500 ans de purgatoire, je sais pas, n'importe quoi. Demi-mensonge. Est-ce que quelqu'un dans la salle ici n'a jamais fait de demi-mensonge? Demi-mensonge. Pourquoi? Parce que c'était sa sœur par son père, mais c'était pas la même mère. Vous savez, à l'époque, c'est un peu comme en Afrique, encore c'est assez courant, bah, vous avez des frères et sœurs, mais c'est des demi-frères, parce que c'est pas la même mère, mais c'est le même père. Voilà. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça, ce demi-mensonge? C'est pas un hasard. Eh oui, parce qu'il avait peur. Il avait la crainte de l'homme. Il y en a qui ont la crainte de l'homme ici? Ou la femme? Eh oui, la crainte de l'homme nous fait souvent faire des demi-mensonges. Hein? Vous savez, il y a les jésuites qui ont passé avant nous. Hein, ils ont été maîtres dans cet art de manier le demi-mensonge. C'est pour ça qu'on ne veut pas leur jeter la pierre aux catholiques. Parce que nous, on recommence pareil, les évangéliques. Des demi-mensonges. Hello? Par crainte de l'homme. Crainte de l'homme. On n'ose pas dire vraiment la vérité. Donc on cherche une vérité. Et on dit cette vérité-là parce que ça nous arrange. On peut sortir d'affaire. Pourquoi? Parce qu'Abraham avait peur de Pharaon. Pharaon, pas n'importe lequel. Pharaon, il pouvait faire ce qu'il voulait. Donc il a dit, on dira que tu es ma sœur. Et hop, ça se passera bien. Et il a recommencé quelques années après avec Abimélech à Guérar, c'est-à-dire Gaza. Gaza actuel. Égypte, Gaza, il a recommencé. Donc la crainte de l'homme était toujours présente chez Abraham, l'homme de la foi. Halal. Voyez bien que c'est un type de Jésus, c'est pas Jésus. Est-ce que Jésus avait peur des hommes? Est-ce que Jésus avait la crainte des hommes? Voyez bien, il y a une différence entre Abraham, qui était le père de la foi, c'est vrai que là, impeccable au niveau de la foi. C'est pour ça qu'un chrétien peut être très bien dans un domaine. Est très mauvais dans un autre. Et c'est pour ça qu'on a besoin des uns des autres, pour se reprendre. Le chrétien qui se fait reprendre, ah, le pasteur m'a repris, ou un tel m'a repris, so what? C'est le pasteur ou n'importe qui, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Ce qu'il faut se poser, c'est la question, moi je suis toujours frappé de ça, c'est que on se plaint que quelqu'un nous a repris. Mais si ça me fait du bien? C'est ça l'humilité. C'est pour ça que je vous ai dit, l'humilité est beaucoup plus difficile que de se battre. Parce que l'humilité, ça veut dire que je dois accepter que je ne suis pas tout puissant. Et ça, la chair du premier Adam, elle est là. Hein. Chacun de nous. Hein. Il fallait que Dieu extirpe ça d'Abraham. C'est pour ça qu'il est dit, après ces événements. Voyez-vous l'épreuve, l'école de Dieu? Vous voulez être encore à l'école de Dieu après ça? Eh oui, c'est exigeant. Il fallait extirper une vieille racine qui n'avait pas été entièrement jugée dans Abraham parce qu'il avait la crainte de l'homme. La deuxième chose qui s'est passée dans Abraham et qui devait extirper, c'était quoi? Qui lui posait problème aussi. Oui, ça c'est la troisième. C'est bien, tu anticipes. Donc la troisième, tu l'as trouvée. La deuxième. Est-ce que vous connaissez l'histoire d'Abraham? Quel était son premier fils qu'il a eu? Ismaël. Ismaël est l'origine de qui maintenant? Du peuple arabe. Vous voyez les conséquences, hein? Donc il a fait une bêtise, on est d'accord, hein? Okay. Dieu répare les bêtises, hein? Il a dit ce sera une grande nation, ce qui est le cas. Voilà, ils sont bénis. Mais quel était le problème d'Abraham avec Ismaël? Et qu'il fallait extirper après ces événements. Pardon? Non. C'est quoi le problème? Hello? Pardon? Ouais, t'es un peu sur la piste, mais je parle d'Abraham, pas Agar. Ben, il avait de l'affection pour Ismaël. De l'affection au point où vous voulez le garder dans la maison. Relisez les... C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, lisez votre Bible, quoi. Enfin, les passages précédents, pour bien comprendre ce qui s'est passé. Il faut replacer la Bible dans son contexte. Le contexte d'Abraham avec Ismaël, c'est que c'était son fils. En plus, c'est sa femme, Sarah, qui lui a demandé de l'avoir avec une servante. C'est pas lui. Bon, il s'y est plié, comme Adam, hein. Vous savez, pas toujours se plier aux exigences de sa femme, hein. Il faut vérifier avant dans la Bible, hein. Eh oui, moi j'ai appris ça, hein. Faut regarder. Ah, tu me dis ça, mais attends, hein. Dieu d'abord. Alors? Ah ben oui, lui, il a suivi Sarah. Ah oui, tiens, je te donne ma servante, vas-y, ce sera notre fils. Ce sera notre fils, mais lui, c'était son fils. Je dirais, il n'allait pas le foutre dehors. Je dirais, t'es gentil, ce gamin, quoi. Il travaillait bien à l'école, il avait des bonnes notes. Enfin, voilà. Je veux dire, Ismaël, attends. Il fait partie de la maison. Et Dieu lui demande non. Dehors. C'est pas le fils de la promesse. C'était ça son problème, c'était pas la promesse, c'était l'affection naturelle, charnelle. Voyez où convient la chair. Abraham était charnel, comme nous on est charnel. Comme tous les humains sont charnels, heureusement. Sinon ce serait des esprits, on serait des démons ou des anges, mais ce serait blanc ou noir. Hein. Pas de salut. Il avait un deuxième problème après ces événements. L'événement, c'était l'affection d'Ismaël. Il a dû souffrir terriblement. La Bible le montre, c'est pas moi qui l'invente, pour mettre dehors avec sa femme qui s'appelait Agar. Le fils qu'Agaru, c'est Ismaël. Agar. C'était un déchirement pour lui. Allô? Vous croyez comme ça, et la fleur au fusil, voilà, il s'en allait. Non, il les a mis dehors dans la cambrousse, et il y a eu de la souffrance, et il y a des conséquences au péché. Mais c'était l'école de Dieu. Il fallait qu'avant qu'il aille livrer Isaac, il fallait qu'il se sépare d'Ismaël. Hello? Pourquoi? Parce que c'était un type de Christ, donc il allait préfigurer une vérité qui dit que le fils de la promesse ne demeure pas avec le fils de la chair, de l'esclave. Alors, c'est Paul qui dira ça. Et nous, si nous ne faisons pas la même chose avec notre petite chair, là, ouais, notre petit héritage adamique, si nous ne prenons pas cette décision de dire c'est d'abord ma vie spirituelle qui doit être prédominante, c'est tout le concept du torrent qui purifie. C'est d'abord mon identité spirituelle qui doit prédominer sur mon identité charnelle. Ben, nous faisons comme Abraham. Et nous voulons être des gens de foi. Hey, ça coince là, ça coince. Abraham, pour devenir le père de la foi, il a dû d'abord passer par être délivré de la crainte des hommes, et ça c'est pas rien, parce que nous avons tous la crainte des hommes, et moi le premier, parce que j'étais timide, hein, tout petit, peut-être je parais pas comme ça, mais complètement timide, et quand on est timide, on a peur des hommes, on a peur de ceci, peur de ça, enfin, imaginez, quelqu'un qui se présente, ah, vous perdez tout, pantalon, il s'en va, tac, vous allez dire n'importe quoi pour vous en sortir, non, là, quand on est vraiment en Dieu, on a peur de personne, peur de personne, mais ça ne veut pas dire de l'arrogance, pas dire de l'arrogance, attention, ça veut dire de l'autorité, je sais que cette parole est vraie, et j'annonce la parole. L'affection qu'on a et que Abraham avait pour Ismaël, il fallait qu'elle soit déposée à l'autel. Il fallait que d'abord il mette Ismaël dehors pour ne garder que le fils de la promesse. Pourquoi ? Parce que Dieu voulait éprouver sa foi. Et pourquoi il voulait l'éprouver ? Parce que s'il lui avait demandé Isaac, alors qu'il avait encore Ismaël, il aurait dit bah, c'est pas grave, j'ai encore un fils, donc celui-là je peux le donner. Alors ? Il n'aurait pas été un type de Christ. Et sa foi n'aurait pas pu être exemplaire par rapport au père de la foi. Il fallait qu'il perde tout. Tout, tout, tout. Alors ? Vous voulez encore être à l'école de Dieu ? Ah ! Je vois que vous révisez votre position. Eh oui, la foi, c'est quelque chose d'exigeant. Pourquoi ? Parce que la foi, ça veut dire que Dieu veut qu'on dépende que de lui et pas des moyens humains. Et on a tellement, tellement tendance à dépendre des moyens humains. C'est humain. C'est humain. On cherche des solutions humaines. Eh bien, il devait être délivré de ça. Et la troisième chose, donc c'est Alexis qui nous l'a dit, c'est l'idolâtrie d'Isaac qui faisait partie aussi du sacrifice d'Isaac. Il avait dans son cœur, bien sûr, après la perte d'Ismaël, eh bien, ce fils de la promesse, le seul qui allait lui permettre d'entrer dans la promesse, tu seras héritier d'un grand nombre de peuples, hein, de pères d'un grand nombre de peuples. Eh bien, il a dû être éprouvé dans cette idolâtrie qu'il a placée totalement sur Isaac. Mais la parole nous dit, de bon matin, il se leva. Quand Dieu lui a dit, tu donnes Isaac, ton fils, il n'a pas discuté. Waouh ! Vous voyez, dès que vous commencez à discuter, je ne sais pas, c'est un pasteur qui était de passage, c'est le pasteur du bus, qui disait que la parole de Satan, de l'ennemi, c'est quoi ?
Demain.
Et Dieu dit ? Vous voyez, une différence entre demain et aujourd'hui. Il y a un petit dicton qui raconte que quelqu'un qui voulait se couper les cheveux, il va chez un coiffeur et il passe devant le coiffeur, c'est marqué « Demain, on grâce gratis ». Demain, je vais venir demain parce que gratis, moi ça m'intéresse. Je vais venir demain. Le lendemain, il passe « Demain, on rase gratis ». Ah ben demain, je viens. Il repasse. Ses cheveux, ils ont poussé. Hein. Mais demain, on rase gratis. Ça, c'est l'ennemi. Eh oui. Vous le faites jamais. Oui. Pourtant, il marchait. Il marchait dans la rue. Il était actif. Mais en fait, il était passif. Et ça, l'ennemi, il est très doué. En disant, mais demain, demain, tu peux prier. Demain, tu peux jeûner. Demain, tu peux faire ceci. Demain, tu peux faire ça. Ah oui, super. Hein. Aujourd'hui, je suis tranquille. Puis demain, ben, aujourd'hui, je suis tranquille. Demain, aujourd'hui, je suis tranquille. Eh hey. Le Seigneur dit aujourd'hui. Et Abraham nous a donné l'exemple. Dieu lui a dit, tu donnes ton fils. Demain matin, à 4h du matin, il se lève, il part. Hé, hey, l'école de Dieu. Et l'école de Dieu. J'obéis, je ne discute pas les ordres. Et Jésus dira plus tard à ses disciples, voyez ce centenier là, romain, je n'ai jamais vu d'aussi grande foi en Israël, dans tout Israël, c'est une parole de Jésus, hein, donc de vérité, que cet homme, ce centenier. Parce que le centenier a expliqué, ben oui, mais écoute, c'est normal, Jésus. tu as l'air étonné, moi, dans l'armée, mon chef, il me dit, tu fais ça. Moi, je dis, subordonné, tu fais ça. Et hop, c'est fait, quoi. Ça marche. Et c'est comme ça que marche la foi. Si toi, tu dis quelque chose, moi, j'obéis, ça marche. Vous voyez, je suis un canal. Je ne suis pas un frein. Je ne suis pas un frein. Moi, j'ai un tracteur chez moi, parce que j'ai un grand terrain, tout ça. Bah, des fois, je pars très souvent avec le frein. Je dis, hein, quelque chose qui ne va pas, ça avance pas. Baf, je libère le frein, ça marche très bien. Mais nous, on veut marcher par le frein, et puis avancer, et puis après, on est fatigué. Ah, mais oui, t'as oublié le frein. Libère le frein. Et ça va tout seul. Libérez votre frein. Et la foi va vous entraîner vers les lieux célestes. Amen. Abraham se leva de bon matin. Et désormais, tout semble se dérouler paisiblement dans la vie de ce patriarche, parce que, eh bien, il va obéir à l'appel de Dieu. Dieu lui dit, Abraham, donne, livre ton fils en sacrifice. En plus, en sacrifice. Pas simplement donner son fils comme Anne a donné Samuel au temple, parce qu'elle l'a revu. Elle pouvait le suivre. Samuel a grandi. Donc le fait de donner son fils au temple, c'était pas pareil que pour Abraham, qui devait le sacrifier. C'est-à-dire le tuer lui-même. Vous imaginez un petit peu? Vous voyez le type de Christ entre le Père et le Fils? C'est ça qui était Abraham. C'est pour ça que quand les gens vous disent des choses sur la Bible, que l'Ancien Testament c'est ceci ou cela, mais relisez un petit peu toutes les prophéties, parce que l'Ancien Testament c'est un livre qui annonce ce qui va arriver. Donc tout est accompli en Jésus, mais tout est déjà dit dans l'Ancien. Mais il faut le chercher. Il faut le chercher. C'est cet amour entre le Père et le Fils qui est là. La Trinité, elle est là. Déjà dans ce passage-là. Dieu, ce type que Abraham manifeste, c'est en offrant le Fils de son amour, lui qui est au centre de ses pensées, et en qui tous ses conseils s'accomplissent, est déjà préfiguré dans Matthieu chapitre 3 verset 17 et dans Jean chapitre 3 verset 35. Pour le patriarche Abraham, toute ressource humaine en vue d'accomplir ses promesses seront mises de côté. Pour qu'il rentre dans les promesses, toute ressource humaine devait être éliminée. Mais Dieu est le centre de sa vie, le centre de la bénédiction et des moyens qu'il lui a donné, eh bien, Dieu se réserve le domaine de l'impossible. Voyez-vous, quand tout semble impossible, c'est là que vous pouvez vraiment voir ce que c'est que la foi, quand tout est impossible. Parce que là, Dieu a tout enlevé autour d'Abraham pour que ce soit l'impossible. Au dernier moment, l'ange de l'Éternel, qui est Christ, l'arrête. Au dernier moment. Mais Abraham, à aucun moment donné, il n'a hésité à aller jusqu'au bout. Je vais peut-être m'arrêter là parce que je n'ai pas fini. Et je voudrais juste anticiper sur la fin de mon message pour dire que, à la suite de ce que Abraham a fait, comme vous l'avez vu, vous pourrez le lire, quand l'épreuve est achevée, quand Isaac est délivré de ce sacrifice que Abraham devait accomplir, Abraham avait une joie et une assurance parce qu'il appelle ce lieu Jéhovah Jireh. Voyez-vous, quand vous sortez d'une épreuve, une épreuve de foi, et que vous voyez que la foi vous donne la victoire, vous ne pensez plus aux souffrances, vous pensez à la joie. C'est comme quand une femme accouche. Hein, une femme accouche qui a des douleurs de l'enfantement, et bien la joie de l'enfant, le rire de l'enfant, la vie de l'enfant, enfin toute la projection de cet enfant dans la vie et tout ça, eh ben ça rend heureux et ça efface les souffrances et les difficultés. Alors, et c'est comme ça que nous pouvons grandir. C'est comme ça que nous pouvons grandir. C'est la vie. Dieu l'a fait la vie de cette manière-là. Et si la femme souffre et que ensuite après elle a cette joie, elle va prendre soin de cet enfant, de son petit chéri. Il faut qu'elle lui donne la nourriture, il faut qu'elle l'entoure et tout ça. Eh bien, Abraham, c'est exactement ça qu'il a vécu dans le domaine spirituel. Après avoir vécu cette souffrance morale, cette souffrance psychique, cette souffrance spirituelle. Vous voyez, je sais pas, pendant tous ces jours de marche, imaginez les jours de marche, et je vous passe les détails parce que j'ai pas le temps de vous rappeler tous ces détails, entre leur relation père-fils qui était difficile, puisque son fils lui dit: mais papa, où il est l'agneau là? Qui est-ce qui va être sacrifié? Mon fils, t'en fais pas, Dieu pourvoira. Vous voyez, Abraham était un homme. C'était pas un extraterrestre. Il n'est pas venu avec une soucoupe volante, hein, comme dans les films Star Wars. Non, c'est quelqu'un comme vous et moi. Et eh bien, il appelle ce lieu la montagne de l'Éternel. Il sera pourvu. Genèse 22, 14. À la montagne de l'Éternel, il y sera pourvu. Et cette appellation de cette montagne-là, eh bien, va permettre à tous les croyants qui vont regarder à cette montagne, non pas de voir la souffrance d'Abraham, mais de voir que l'Éternel pourvoit encore aujourd'hui. Hello? Et que nous tous, nous sommes à cette source et à ce bénéfice de la foi d'Abraham. Nous pouvons regarder à cette montagne: Seigneur, tu as pourvu pour le sacrifice d'Isaac, pour Abraham, tu vas pourvoir pour mon sacrifice, pour mon épreuve aussi. Hello? C'est encourageant d'avoir cette montagne qui a été édifiée, qui a été nommée par Abraham, non pas la montagne de la souffrance, mais la montagne où l'Éternel pourvoira. Amen. Est-ce que vous voulez aller à cette montagne où l'Éternel pourvoit? Eh bien, allez à l'école de Dieu, à l'école de la foi, et vous marcherez de victoire en victoire. La foi va grandir, mais les épreuves aussi. Alors? Parce que Dieu va pourvoir pour sortir de l'épreuve. Il permet l'épreuve, mais il pourvoit aussi le moyen d'en sortir. Amen. C'est ce qui s'est passé pour notre père Abraham, mais pour nous aussi. Et Dieu lui confirme ses promesses à ce moment-là. Dans Genèse 22, 18, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit: toutes les nations de la terre se diront bénies par ta descendance, parce que tu as écouté ma voix. Si vous retournez dans les promesses précédentes, c'était pas marqué toutes les nations. C'était pour le peuple juif. Ah. Vous voyez, là, Abraham devint le père de la foi pour toutes les nations, pour tous les croyants de toutes les nations. Alors, nous sommes dans le prophétisme là, dans ce qui allait se passer au moment de la Pentecôte, où le Saint-Esprit allait être déversé sur tous les croyants réunis qui étaient là et qui ouvrent l'ère de l'Église. Alors, vous pigez? Le plan de rédemption de Dieu, il est extraordinaire. Et là, parce que Abraham a obéi de cette manière-là et exercé la foi, il a eu une bénédiction qui a décuplé, qui s'est élargie à ce moment-là, et cette promesse est devenue une promesse plus grande. Et si vous exercez dans le cadre où vous êtes de la foi qui est éprouvée, parce que nous sommes tous éprouvés, parce que Dieu veut que notre foi soit éprouvée comme de l'or, pour que l'or devienne de l'or, c'est un minerai au départ, hein, il faut qu'il soit épuré. Et si on veut que l'or brille, il faut qu'il soit épuré. Okay? La foi aussi. Et donc, deux choses l'une, où on dit: arrête Seigneur, ça fait trop mal, ok, ben, ce ne sera pas de l'or, ce sera du zinc, du bronze, une cloche, comme notre mère qui n'est pas sortie, il a fait une cloche. Ben, maintenant il résonne, mais voilà, il n'y a plus rien. Mais si vous ne voulez pas être une cloche, vous voulez de l'or, il faut que ce soit éprouvé. Il faut que ce soit éprouvé. Alors, est-ce qu'on veut être des chrétiens prêts à être éprouvés? Ou est-ce qu'on dit: Seigneur, arrête, ça fait trop mal, arrête. Alors, on est libre. Dieu respecte notre liberté. Ah, yes. Mais le problème, c'est que beaucoup de chrétiens voient d'autres chrétiens épanouis, et ils veulent cet épanouissement, mais ils ne veulent pas le moyen pour y arriver. Alors ça, j'en ai vu, hein. Et j'en vois encore. Et oui, mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Je ne peux pas voir le résultat de quelqu'un qui a été éprouvé par le feu, dans sa foi, avoir le même résultat sans passer par le même chemin. C'est ce que la Bible nous dit. Donc après, ça crée des jalousies. C'est pour ça qu'il y a des problèmes dans les églises. Des jalousies parmi vous. Des disputes. Pourquoi ? Parce qu'ils sont jaloux. Ils sont jaloux de ceci, ils sont jaloux de cela. Mais ils ne savent pas le prix qui a été payé pour arriver là. Alors, il y a un prix à payer pour arriver au résultat, parce que la foi est éprouvée. Et dans Galates, chapitre 3, verset 16, il y a là une vérité que je voudrais relever aussi. 3, verset 16, voilà ce que dit l'apôtre. Il dit « Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance, et il n'est pas dit « et aux descendances » comme il s'agissait de plusieurs, mais comme à une seule, à ta descendance, c'est-à-dire Christ. » Voyez-vous, il a préfiguré Christ. Et Christ, quand il a donné son fils, il n'a pas donné comme Isaac. Isaac, il a été sauvé. Est-ce que Christ a été sauvé ? Non, il est mort. Christ a dû subir le châtiment. La différence entre Isaac et Christ, entre le père et le fils, Abraham et Isaac, et le père, Dieu, et le fils, Dieu, Jésus-Christ, c'est que Jésus a dû aller jusqu'au bout. Isaac était sauvé, comme par une résurrection, parce que Abraham savait que Dieu pouvait le ressusciter. Et c'est une forme de résurrection. Mais ce n'est pas une vraie résurrection. Dieu a arrêté la main d'Abraham avant. Mais le Père, il n'a pas arrêté la main des bourreaux devant la croix. Jésus est allé jusqu'au bout, pour nous, par amour. Parce qu'il a accompli la justice de Dieu. Voyez-vous, l'amour de Dieu, c'est à la base. Mais c'est comme une pièce de monnaie, il y a deux faces. D'un côté, il y a l'amour, de l'autre côté, il y a la justice. Dieu est juste. Et aucun être humain ne voudrait vivre dans un royaume où il n'y a pas de justice. Aucun. De toute façon, ce serait la pagaille. Dieu est juste, mais il est amour. Et les deux, c'est lui seul qui est capable de les réunir. Et il les a réunis en Jésus-Christ. À cause de la justice, Dieu, Jésus a dû payer le prix. Et par amour pour son Fils, il l'a ressuscité. Entre les morts, parce que la mort ne pouvait pas le retenir. Et ça, c'est Pâques. C'est le passage. Le passage de la mort à la vie, le passage de la médiocrité à la perfection. Amen. Nous sommes parfaits en Jésus-Christ. Donc ce récit typique laisse, ce qui est intéressant aussi, dans le récit de la Genèse, Isaac, on n'entend plus parler d'Isaac. Pourquoi ? Parce que cette montagne préfigure déjà l'ascension de Christ. Christ, eh bien, est ensuite après monté au ciel, où il est assis à la droite de Dieu, et maintenant il règne pour être un intercesseur. Il intercède pour nous auprès de Dieu, et il nous donne la victoire. Dans Ésaïe, chapitre 53, verset 10, il dit « Il plut à Dieu ». C'est-à-dire, Dieu, il a pris plaisir. « Il plut à Dieu de le meurtrir, et il l'a soumis à la souffrance. » Il l'a soumis. Dieu, cet amour de Père, il l'a soumis à la souffrance parce que c'était le seul moyen d'accomplir la justice. En sorte que par la grâce de Dieu, dans Hébreux chapitre 2, verset 9, il goûta la mort pour tout. Et il y a ce vieux cantique, je voudrais vous le chanter, je ne sais pas si dans les ailes de la foi. Venu pour honorer le Père, jusqu'à la mort tu le servis. En toi seul il put se complaire, son bien-aimé humble et soumis. Nous t'offrons, Seigneur, notre hommage. Contemplant un tel dévouement, nous exalterons d'âge en âge ce suprême renoncement. Amen. Et la Pâque. Nous avons une fête merveilleuse, une fête extraordinaire, celle de la Pâque, qui est plus extraordinaire que celle de Noël. Noël, c'est vrai que Jésus est venu par Marie et par le Saint-Esprit, c'est un miracle. Mais Pâques, c'est l'amour suprême d'un Sauveur qui nous a aimés et qui a accepté de se séparer du Père, où il a crié à la croix, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est le cri de quelqu'un qui n'a jamais connu la séparation avec son Père. Il a été séparé à cause de péché. L'amour suprême que Jésus a fait, que ce temps de Pâques puisse nous aider à nous à réaliser quel est l'amour de Dieu pour nous et que nous puissions accepter cette épreuve de foi. Que chacun de nous vivons à notre niveau, à notre niveau. Et nous avons besoin de grandir en maturité spirituelle au travers de l'épreuve de la foi pour que notre foi puisse sortir grandie. Et que, c'est, vous savez, c'est la seule chose que nous aurons dans l'éternité. La seule chose. L'or va passer. L'or va passer. Ouais. Si vous voulez gagner beaucoup d'argent, ok, tout dépend ce que vous voulez faire avec. Mais de toute façon, il ne restera plus rien. Si l'argent que vous utilisez sert à bénir les autres, à sauver les autres, ok, il va rester. Mais ce qui reste, c'est pas l'argent. Ce qui reste, c'est ce que vous avez fait avec. Okay. Donc c'est bien de vouloir être un gestionnaire d'argent. Mais si c'est l'argent pour l'argent, là je vous plains. Parce qu'il ne restera plus rien. Donc à chacun de notre niveau, eh bien, soyons des instruments de sa grâce pour accomplir le plan de Dieu à notre niveau. Et contentons-nous de ce que nous avons. Si le Seigneur vous donne beaucoup d'argent, tant mieux. Demandez-lui la grâce de bien le gérer. Mais ce que vous avez, utilisez-le maintenant pour le mettre au service de Dieu. Et ça, vous le garderez dans l'éternité. Si vous voyez des gens heureux, des gens épanouis, des chrétiens qui rentrent dans leur destinée, si des inconvertis sont sauvés, eh bien, ils vous remercieront dans l'éternité pour toujours. Amen. Donc soyons à notre niveau des instruments entre ses mains pour voir et pour voir. Amen. Le Seigneur pourvoira et nous, notre boussole intérieure va nous montrer au moment où il faut les choses à faire. Demeurons dans la foi. Amen. Seigneur, nous te remercions pour cette histoire que tu nous as laissée d'Abraham, notre père, le père de la foi, celui qui nous a montré l'exemple d'une obéissance absolue, Seigneur, qui a typifié le Christ. Mais Seigneur, nous voulons suivre ses pas, parce que, Seigneur, tu nous encourages à mettre notre foi à l'épreuve pour qu'elle puisse être purifiée et grandir. Seigneur, ne nous donne pas de baisser les bras, de nous décourager, Seigneur, parce que nous sommes dans un moment où tu veux, Seigneur, des hommes et des femmes de foi dans ce monde perdu. Et nous avons besoin de toi, de ta grâce, et nous te le demandons, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. J'invite les personnes désignées pour le repas que nous allons partager.